Bobsonics Radio.
J'ai passé des années dans le militaire de l'aviation, comme si tu as vu le film Doctor Strangelove et tout ça, ça te fait donc le côté de le militaire le plus strict, la plus secrète et tout ça. C'était des avions, le premier avion de réaction de jet bombers. J'ai fait les jet bombers pendant quelques années. Et puis après ça, j'étais à San Francisco. Mais j'étais fait le cable car, c'est-à-dire le tramway. À un moment donné, j'ai vu tous les touristes qui viennent, qui veulent un souvenir. Et puis j'ai dit, j'ai écrit un livre là-dessus avec des photos. Et quelqu'un, il a monté sur mon cable car et m'a dit, ah, Monsieur Van Peebles, vous savez, votre livre, c'est comme un film. J'ai dit, merde, je vais faire le film, c'est comme ça.
Chipping. That's all that life is.
Est-ce que votre carrière cinématographique commence finalement, enfin, elle est anticipée aux États-Unis. Vous venez de nous raconter cette anecdote, mais finalement, elle prend corps en France. Alors, comment s'est fait ce contact avec la France? Dans quelle mesure la France pouvait même être un peu presque une base arrière, hein, de l'expression afro-américaine? Chester Himes était déjà en France, le jazz était déjà bien accueilli en France, là où beaucoup de musiciens, même connus, restaient des musiciens de ghetto dans leur propre pays. Comment vous avez ressenti la France quand vous étiez arrivé?
Eh bien, la façon que j'ai fait, c'était que j'ai commencé à faire mes films. Moi, je coûte que dalle de le cinéma, mais je l'ai pris moi-même et tout ça. Et donc, mon premier long métrage, c'était devient, après le montage, une dizaine de minutes. Mais de toute façon, j'ai fait trois courts métrages et j'étais allé à Hollywood avec mes œuvres. Et il m'a mis à la porte. Il m'a dit pas, ils ont m'a mis à la porte. Il m'a dit, c'est très clair que vous n'êtes pas quelqu'un qui est doué pour le cinéma, gna gna gna. Aussi, à ce moment, entre parenthèses, il n'y a pas des gens de couleur dans le cinéma. Mais ils ne m'ont pas dit ça. Hein. Ils disent parce que vous n'avez pas le talent. Parce que vous connaissez, on était Américains ici, on était tous une peuple, gna gna gna, ou machin truc, machin chose. Mais de toute façon, moi, j'ai eu personne que je peux demander si j'ai eu le talent pour le faire ou pas. Donc, j'ai décidé d'aller à ma deuxième métier, qui était l'astronomie mathématique. Et parce que j'étais inspiré un peu que Sputnik a juste a été lancé dans le monde. Et j'ai pensé que l'avenir va être dans l'astronomie, le mécanique, les mathématiques. Et voilà, la place le mieux pour ça, cette sorte de chose à cette époque, c'était en Hollande. Parce qu'en Hollande, les climats, c'était pas bien pour l'astronomie optique, de visuel. Ils ont fait la mathématique sur l'astronomie. Ils disent, bon, j'étais allé en Hollande pour faire mes études, continuer mes études. Eh bien, pas une grosse chance, mon vrai nom, c'est Melvin Van Peebles, c'est mon nom. Et donc, je décris à la Hollandais, je dis, ben, écoutez, moi, je veux venir pour continuer mes études, bien sûr, je viens un peu plus tôt pour faire souvenir de le langage. C'est-à-dire, ça, il y a une implication que j'ai parlé le langage, je connais caral, mais eux, ils n'étaient pas trop fins. Ils disaient, oui, d'accord. Et donc, c'est comme ça, j'étais venu en Hollande pour te faire mes études. Mais, pour aller en Hollande, j'étais obligé d'aller à New York et de prendre pour le bateau. Pendant le temps que j'étais à New York, j'ai eu mes trois films en cours. Et j'ai donné le film à un mec qui est une fada de cinéma. Le cinéma qui n'était pas dans le piste hollywoodien, le cinéma expérimental, qu'ils ont dit ça à ce moment-là. Et ce monsieur, il a pris mes films que je faisais pour avant que Hollywood a dit c'était le meilleur.
C'était quoi ces trois films à cette époque-là?
Ce film, c'était Three Pickup Men for Herrick. Un autre titre, c'était A King. Et un autre film, c'est... je ne me souviens plus. Mais de toute façon, lui a pris ce film. Bon, j'étais allé à Hollande. Et il y a, quelque chose comme ça. Je rentre de l'université et là, j'ai trouvé une lettre, une enveloppe en fait. Une enveloppe, et dans cette enveloppe, c'est une carte postale. Et cette carte postale, c'était de la Cinémathèque. Bah, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec les études d'astronomie, tout ça? Tu es génie de cinéma. Et moi, je dis, bien sûr, je dis, ah, finalement, quelqu'un qui m'a compris. De doué, ça, tu vois. Et là, je laisse tomber mes études d'astronomie et je suis rentré ici en France. Et bien, c'est ça qu'est-ce qui m'est arrivé. Et c'est la Cinémathèque. À un moment donné, c'est pour la raison pour laquelle tous les musées de films s'appellent Cinémathèque, c'est dans l'honneur de la Cinémathèque française et Henri Langlois. Et eux, à cette époque-là, cet monsieur qui a pris ma film à New York, cet monsieur, il est invité par la Cinémathèque française parce qu'il est... Il est assis de faire le cinéma aussi de la même façon que la Cinémathèque française. Il est invité en France. Et quand il est invité en France, penses-tu, qu'est-ce qui se passe? Il a pris parmi les autres films le mien. Et les gens disent, mais qui c'est lui-là qui a fait ça? Da, 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 da. Et la Cinémathèque a eu la gentillesse, vraiment la bonté, la gentillesse de... Parce que j'étais personne et j'étais pas facile à trouver. Mais ils ont pris tous ces problèmes-là, ils m'a trouvé en Hollande et m'a invité à France. Et c'était ça le trajet de mon arrivée à France. Et bien sûr, que j'ai arrivé ici, il m'a amené à la Champs-Élysées, il y a une petite salle privée, là en haut, là, une de la théâtre. De cinéma, et ils ont vu mon film, et tout le monde m'a dit que j'étais une fois de plus, j'étais un génie, il faut que je reste dans le cinéma. Et Mary Mason et Lottie Eisner et Henri Langlois, bien sûr, ils m'ont tous donné de bisous. Et puis, ils sont rentrés dans la voiture, et tout le monde est parti. Et bien, moi, j'étais là, au milieu des Champs-Élysées, pas un mot de français, pas un rond. Trois bobines de film et des joues mouillées. Eh bien, mais ils ont fait une autre chose, plus importante que tout ça, il m'a donné de l'espoir. Eh bien, c'est comme ça que j'ai décidé que je vais faire le cinéma ou mourir sur le champ, comme un soldat, quoi, et machin, truc, machin, truc. Eh bien, donc, j'ai devenu mendiante. J'étais mendiante. J'étais fait des cloches. J'étais fait de manches devant The Old Navy et du Magot et tout ça. Et je chantais Take this hammer, take it to the captain. Et la bamba, ben c'est comme ça. C'est.
Chipping. Chipping. But that's all.
Et petit à petit, j'ai pris le français. Mais bien sûr, il y a les mauvaises langues qui disent que j'ai jamais pris le français. Mais on fait pas trop d'attention à eux. Eh bien, c'est-à-dire, j'ai pris le français, c'est pas vrai. J'ai pris le parigo parce que c'est des clochers qui m'ont pris le langage. Et donc, mais à un moment donné, j'ai eu les chances, j'ai fait une enquête pour un journal et ça, c'était bien marché. Et donc, aussi, au même temps, Quelqu'un m'a dit qu'un réalisateur, un écrivain français à la droite, avait une carte provisoire pour de mettre son propre œuvre sur l'écran. Et donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas? J'ai commencé à écrire les romans. Et j'ai commencé à vendre mes romans. Et puis, à un moment donné, j'ai allé au centre de cinéma. J'ai dit, ben, écoutez, je veux mon corps de réalisateur. Mais comment? Je dis, ben oui, ben, la loi, il dit, un écrivain français, il a le droit d'une carte de réalisateur. Et ben, j'écris en français, donc je suis un écrivain français, n'est-ce pas? Et le mec m'a regardé, il dit, ben oui. Et c'est comme ça que j'ai eu mon carte de réalisateur. Et puis, après ça, j'ai écrit une histoire qui sont un flatté pour le français et tout ça. Et donc, j'ai eu une subvention. Et bien, donc, et ce film, c'était pris pour le Festival de San Francisco. Donc, j'étais allé à San Francisco avec mon premier long métrage, La Permission. Et personne ne savait que j'étais américain, ni noir. Donc, les Américains sont un peu bouleversés. Mais, eh bien, ça va.
Vous êtes arrivé à San Francisco, Melvin Van Peebles, comme un réalisateur français, en fait. On vous a accueilli tel quel.
Oui, oui, comme un réalisateur français. Et c'était un peu, pour le dire, San Francisco, c'était la ville que j'étais viré de San Francisco 10 ans plus tôt, quand j'étais conducteur de tramway. Et donc, ça c'est vraiment la chance. Et comme dans, si tu vois ça dans un roman, il dit, oh ben, c'est trop de coïncidences. Mais c'est ça qui se passe.
Pour rester à Paris, parce que vous y restez, vous devenez journaliste. Le Nouvel Observateur, enfin, qui ne s'appelle pas encore Le Nouvel Observateur, d'ailleurs.
Non, le France Observateur, mais à cette époque-là, oui. Mais ben, ça, c'est fait aussi. Ma vie, c'est bourré de chance et quelquefois mauvais, quelquefois bien, mais j'ai eu l'astuce de changer tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était à un moment donné, j'ai sorti de la métro Lézière et j'ai vu, c'est devant la brasserie Zéhier. Je commence à me dire, moi, je ne croyais pas dans ça, c'est le bobard. Eh bien, j'étais toute seule. Je dis, mais tu crois, c'est quoi? Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai rêvé de comprendre que je peux lire le français petit à petit. J'ai lu le gros titre d'un journal. Il y a une histoire d'une meurtre à un journal. Et je lis le, mais j'étais même pas conscient que je peux le faire. Et puis, ben, je parle de gonfler, moi, j'ai téléphoné au journal, j'ai dit, mais hey, je ne croyais pas là-dedans. Et le mec m'a dit, bah bien, tiens, ok, allez faire une enquête pour nous. Eh bien, j'ai fait l'enquête et j'ai trouvé toutes les choses cachées, da-da-da. Et j'ai devenu un grand reporter des enquêtes pour les meurtres et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pourquoi quelqu'un m'a envoyé. C'était août. Donc, tous les autres gens, c'était en vacances en place quelque part. Si ce n'était pas en août, à ce moment-là, bien sûr, il a envoyé quelqu'un d'autre, mais il n'y avait personne. Et moi, un des jours, les moments les plus puissants de ma vie, c'était que je rentrais avec les histoires, j'ai une copine avec moi. Elle tapait à la machine, ça c'était à le journal lui-même. Et j'ai fait les dictations, et elle arrange ma français, et elle est en train de taper sur la machine. L'éditeur, il rentre, il regarde sur la machine, et il tire le papier de la machine. Il tire le papier de la machine, il commence à courir. Il dit, arrête les presses. Ils ont arrêté tout. Et le jour suivant, un jour, je suis monsieur quand? Et le prochain jour, je suis notre éditeur spécial envoyé, retrouver, c'était ce moment-là. Tout est commencé une fois de plus. Et tous les autres gens qui m'ont envoyé faire foutre quand j'ai essayé de vendre mes romans, ils m'ont téléphoné et j'étais devenu le chouchou.
C'était quoi ce fait divers qui avait fait arrêter les presses
c'est comme dans le film américain. Arrête la presse, arrête la presse. Et c'est une hebdomadaire. Et donc, ils ont changé tout. Et un jour ou l'autre, le mardi, j'ai le causé avec. Le mercredi, j'allais là et je fais mon enquête. Et le mercredi soir, parce que il y a la presse, à ce moment-là, ils ont arrêté la presse et changé tout. Et ben j'étais devenu Mel Monsieur Vedette, quoi. C'est comme ça.
Alors, toujours en tant que journaliste, mais alors on est peut-être plus dans le caractère très, très officiel d'un journalisme pur et dur, vous rejoignez l'équipe d'Harakiri et vous êtes un des piliers d'Harakiri au milieu de Cavana, Choron, Topor, etc. J'en passe. Et je me rappelle même avoir vu l'ours qui disait à l'époque que vous étiez l'alibi antiraciste de Harakiri.
Oui.
C'est vrai, ça?
Oui, mais c'est leur façon ironique qui était formidable. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'était que eux, ils m'ont gardé au cours de l'enquête. Et il y a un jour, l'éditeur dit, mais Melvin, il n'y a pas grand-chose qui se passe cette semaine ici. Mais il y a un mec qui a gagné le prix surinois. Allez, faites un entretien. Et j'allais là, et je frappais à la porte. Et le type dit, je frappe une fois. Et finalement, le type dit, go away. I'm expecting a report, en anglais. And I said, I am the reporter. Et le mec, très, très, très bien, il ouvre la porte, il dit, je suis de France Observatoire, il dit, I'm Chester Himes. Et c'est comme ça, j'ai fait la connaissance de Chester Himes. Et on est devenu, c'est un coup de foudre pour nous tous les deux, on a éclaté de rire et tout ça. Il dit, mais tu es le journaliste français, baby. Et toi, tu es le noir, tu es le gagnant. Et on était devenu très potes. Et pendant ce premier entretien, il m'a dit que, vous savez, il y a des gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont demandé de travailler avec eux pour mon point de vue ironique et tout ça. Et là, un nouveau journal français qui s'appelle Harakiri. Mais moi, je ne parle même pas le français, je ne veux pas mon maire, etc., etc., etc. Mais lui a téléphoné à Harakiri et dit, mais j'ai un type avec la même optique, la même façon, et il parle français. Et puis, c'est comme ça que j'ai été vu à Harakiri. Et c'était la troisième édition depuis le commencement. Donc, on était 8 à Harakiri. Et c'est comme ça que je suis venu à Harakiri, ouais. Bien sûr, Kavanaugh et Professeur Choron et Jebe, Reiser, Topor, Cabu, c'est de là, le Fred, qui a fait l'équipe. Et à un moment donné, je lui ai demandé à le type, Kavanaugh, pourquoi tu m'as pris dans votre équipe? Il dit, parce que vous, les Américains, tu écris comme tu parles. Ah, et c'est vrai, parce que très souvent, un Français, même il parle, quand il écrit, il dit, je prends ma stylo au main, c'est quelqu'un tout à fait changé. Maintenant, ça devient plus en plus, les gens causent, écrit dans la même façon, mais à cette époque-là, encore, il y a très peu de gens qui ont fait ça. Dans la chanson, oui, mais autrement, non. Et donc, mais qui a un ballon pour un animé, pour un dessin, tu veux le ballon avec des choses, le style, parlons, pas écrit. Et donc, c'est pour cette raison-là, il m'a pris. Et c'est pour cette raison-là, ils ont probablement demander à Chester Himes qui m'a passé la chose. Et donc c'est comme ça.
Nope, the party's not yet broken. and I haven't received my full-fledged imp wings. But you remember how I offered my soul to Satan for the chance, the glorious chance to be mean? Well, I've just done it. I've done it, I've done it, I've done it. I've just had my first taste of fulfilling my ambition.
Dans quelle mesure ces années françaises, elles ont nourri votre cinéma et votre expression typiquement afro-américaine? Le public de Sweetback ignore, je pense, au début des années 70, que vous avez eu ce background français. Et moi, ce qui m'interroge, c'est comment, finalement, cette conscience afro-américaine, elle peut se développer peut-être mieux à Paris qu'à New York. Alors, je dis peut-être, hein, je me trompe certainement, mais c'est intéressant qu'il y ait eu cette espèce d'effet boomerang, finalement, avant de revenir aux États-Unis.
Non. Voilà qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis un consolité et j'ai une façon de voir les choses. Et si ça marche, bah, si ça court, très bien, sinon, bah, allez faire foutre. Même dans le français, il y a les choses qui avaient plus probablement d'influence sur moi, c'était pas le cinéma, mais c'est la musique vieille. C'était des Brouhans à la Bastille. Et moi, c'est moi qui a commencé là-bas en Amérique. Comme on dit maintenant, c'est le rap et tout ça. Mais j'étais très influencé par Brouhans, par les autres gens comme ça, par Damia, par Freyel et tout ça, que par le cinéaste. Mais d'abord, j'ai pas assez de fric d'aller au cinéma au commencement. Non, c'était pas comme ça. C'est comme ça. Mais j'ai senti très à l'aise dans la culture. Et ça, pour moi, c'était pas... c'est une liberté, mais c'était pas une façon qui m'a influencé. Ben, j'en sais rien, moi. J'étais pas cette façon de retenir ça m'a influencé, ça, j'en sais rien. Mais j'ai vécu, et ça, c'est assez influence pour moi.
Ben, vous nous dites, en tout cas, Melvin Van Peebles, que Fréhel, Brouhans, initient le spoken word, de votre avis et de votre expérience.
Ben oui, mais cette idée, quand je commence à chanter, fait la narration sur la musique en américain, ben, ça ne me semblait pas si bizarre que peut-être si je n'ai jamais écouté Damia ou Freyel ou les autres raconter des histoires. Break that party, break that party, rip that party, tear that party, break that party, break that party. Come on, y'all, take some more to work your appetites up. Don't you think I can get up and down from my chair, child? How old you think your old lady is anyway? Don't you dare answer that.
You know, when I bought in this Sampton Clues mask, I could swear I was right back down home at a good old Southern Saturday night party.
Don't tell that lie, Brother Wise, you would think you was back down south, because if you was back down home, your hands would be too sore to think cotton to holler hold a Sampton in the first place.
Well, maybe I ain't got cotton picking hands no more, but I sure got red caps back.
Brother Washington, you got a point there. Yes, sir, if it ain't one thing, it's another. I ain't been picking no cotton lately or pulling any sacks around, but maid working ain't so easy either. My feet feel like they're 13 days in every week.
Yes, you got a point there, because if it ain't one thing, as sure as another, I don't believe that man I'm sure for ever heard a union wedding or no special amount of working hours in a week.
If it ain't one thing, then it's another, that's the truth. Me, I got post office palsy, and I've sorted so many letters, my eyes are getting weak.
I gotta go see about things in the kitchen.
La musique vous poursuit tout le temps. Le thème d'Arsenal on Fire qui accompagne la cavale de Sweetback, hein, pendant tout le film, c'est récurrent, on entend tout le temps ce Fender Rhodes, un piano comme ça obsédant. Et en fait, vous en êtes le compositeur. Arsenal on Fire est un groupe qui débute,
moi.
Et c'est vous qui donnez cette musique.
Oui, c'est moi, j'ai dit, fais-le comme ça. Je veux ça, je veux attendre. Bum, 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 Et bon, ben, c'est moi, Earth, Wind and Fire, n'oubliez pas, c'était leur premier album. Ils n'ont jamais fait un album, ils n'ont jamais recordé avant ça. Mais eux, ils ont une chose que j'adore chez les artistes. Ils m'écoutent, ils font qu'est-ce que je dis. Comme ça, c'est beaucoup plus fini. Ils étaient bien, ils ont été charmants. J'ai dit, fais ça, et c'était... Mais parce qu'ils n'ont jamais fait de film ou de musique comme ça, les choses que je veux faire, qui quelqu'un qui est deux métiers trouve bizarre et impossible, pas eux, since il n'est rien connu, ben il le fait.
On me. Anyway, the way I pick them up and put them down, even if it got my name on it.
Oh, suck. Oh, you got a sweet. You got a sweet, sweet back.
Sweet back a été classé X. Alors, on a dit qu'il y avait des scènes de. Je rappelle que vous interprétez vous-même le rôle de Sweetback, je rappelle ça pour nos auditeurs, et puis le début de l'aventure de Sweetback, il est acteur porno dans un cabaret, cabaret porno, donc on le voit pratiquer l'acte sexuel, mais sans pornographie, mais il semblerait que votre film aujourd'hui est classé dans les films non pornographiques, mais avec des actes sexuels non simulés. Alors aujourd'hui, je vous demande la confirmation, est-ce qu'il y avait véritablement un acte sexuel non simulé dans certaines scènes de ce film, ou alors est-ce que c'est une légende?
Mais la raison pour laquelle le film a eu un X, c'était tout à fait politique. Donc, laisse-moi t'expliquer ça. Quand tu fais un film en Amérique, tu mets le film chez les censeurs. Et le censeur dit que c'est volontaire. C'est volontaire, tu n'es pas obligé de le faire. Si le film, c'est à quel niveau? X, R, PG, blablabla. Mais moi, quand j'ai fini le film, j'ai dit, j'en ai marre de les blancs qui m'ont dit si ça, tel, parce que tous les gens dans la board qui décident, c'était le blanc. Et je dis, mais moi, je ne veux pas faire un film de le genre de le ghetto et tout ça. Allez à vous, patron, de m'a dit si c'est un ex ou pas. Et c'était une chose politique. Et parce que je refusais de le faire, là, dans ce moment-là, ils te donnent un automatic X. Si tu n'allais pas, eux, te demander, patron, qu'est-ce que tu en penses, tu as, tu as un X automatique. Je dis, donc, je le prends le X automatique. Mieux que une fois, je ne peux pas, à mon idée, je ne peux pas bagarrer contre quelqu'un et puis après aller au patron, qu'est-ce que tu en penses? Je m'en fous, qu'est-ce qu'il pensait. Ben, donc, eux, ils m'ont donné un ex. Mais moi, mon côté entrepreneur, j'ai fait des t-shirts qui disent « Rated X », par un jury, de tout le blanc. Eh bien, j'ai vendu énormément de t-shirts, j'ai fait une fortune là-dessus.
Est-ce que, outre cet aspect opportuniste du t-shirt, est-ce que le rated X, la classification X, finalement, c'est une contrainte dans votre art de cinéaste? Ou alors est-ce que finalement, c'est même le contraire, la possibilité d'avoir le maximum de liberté? Puisque de toute façon, vous êtes classé X, donc autant faire tout ce que vous voulez.
Mais non, le X, au commencement... Le ex veut le dire qu'il y a beaucoup de salles qui fait le mal de jouer. C'est une gifle. Le film va marcher bien, oui ou non. Mais aussi, ça est devenu presque une acte de défiance de dire je marche pas dans la combine, le ex. En fait, parce que j'ai pas baisé ma tête, dit ah oui patron, ça fait partie de le style de le film. Et donc là, il y a des gens très souvent, je vois les gens dire ah le premier film que j'ai jamais vu, nanana, c'est Sweetback. C'est comme ça.
But he won't bleed me. Use your black ass from sun to sun. Niggas scared, pretend they don't see. Deep down, dirty dog scared.
Just like you, Sweetback.
Just like I used to be. Work your black behind to the gums. And you supposed to time us till he done.
You got to time us, Sweetback. They bled your brother.
You to believe.
No! Progress, Sweetback!
He ain't stopped clubbing us for 400 years, and he don't intend to for a million.
He showed it up fast, Sweetback.
We can make him do us better.
Chicken ain't nothing but dirt. White man ain't nothing but dirt. Nigga ain't shit.
Trigger.
You talking revolution, Sweetback.
I want to get off these knees.
You talking revolution, Sweetback. Let it shine, let it shine, let it shine. He popped your mama. He popped your papa.
But he won't waste me.
You can't make it on wings, wheels, or wheels, Sweetback.
We got feet.
You can't get away on wings.
Niggas got feet.
They bled your brother. They bled your sister.
Your brother and your sister too. How come it took me so long to see? How you get us to use each other?
Niggas scared.
We got to get it together. If he kick a brother, it got to be like he kicking your mother.
They hype you into something tomorrow out your own bones. Yeah, she gotta be.
A man is jive.
Yeah, not too jive to have his game up tight in your kinky beam.
He ain't gonna let you stand tall, Sweetback.
I'm standing tall anyway.
The man knows
Alors, Sweetback est considéré à raison ou peut-être à tort comme le film pionnier de ce qu'on a appelé la Blaxploitation. En même temps, la Blaxploitation est rarement un cinéma engagé. Sweetback l'est clairement. Est-ce que vous vous sentez un espèce de papa inconscient de la Blaxploitation ou pas du tout, finalement, Melvin Peebles?
Mais d'abord, tu as lié deux choses là. Jamais les gens m'ont dit que Sweetback, c'est un film de Blaxploitation. Mais le Sweetback, la deuxième partie de votre question, c'est différent. Au cause du fait que Sweetback a fait tant de l'argent, parce qu'avant Sweetback, ils ont dit qu'un film avec des sujets noirs, de noirs, ne fait pas le fric. Ben, ma réponse, c'était, comment tu sais, tu n'as jamais fait. Tu dis, tous ces films de bambou là, ça, c'est pas un film de noir. Ça, c'est un film que tu voulais dire. Je dis, mon jardinier ou mon cuisinier, il adorait le film. Quand tu arrives à quelqu'un, il dit, tu as aimé le film là? Ben, les gens, ils veulent pas qu'ils ont viré. Il dit, oui, patron. Et donc, mais tout le monde était frappé. Maintenant, ce n'est pas uniquement le Bobo. Quand le film est fini, il n'y a que deux salles dans toutes les États-Unis qui étaient d'accord de le faire. Deux salles, pas deux villes. Deux salles, a dit que. Parce qu'aussi, une autre chose, quand il y a un film noir, quand il y a un film première classe, eux, ils ont joué, ils ont mis tout seul. Et moi, il dit, mais peut-être on prend ton film avec un autre. Je dis, non, tu joues ma film toute seule. Tu ne joues pas toute seule, allez faire foot. Mais il y a deux places. Mais dès que j'ai commencé à faire toute cette fric, tout ça a changé. Hein? Mais bien sûr, après, les gens disent, ah bah oui, bah, c'était une question. Non, c'était jamais comme ça. Par exemple, une chose classique, Shaft. C'est un film blanc. Après, Sweetback a fait tous ces trucs-là. Ils ont arrêté les préparations de le film et ils ont mis une acteur noir. Ils ont changé les choses. Mais ils sont cons, mais pas à ce point-là, quoi. Tout le monde dit, bon, voilà, il y a le fric là-dedans. Et c'est ça, de répondre à votre question, ça, c'est oui, je suis le père, il est jeune mythe peut-être, mais le père de Blaxploitation. Ça, c'était commencé le Blaxploitation. Et puis, une autre chose qui se passe, c'était que quand j'ai fini le film, j'ai pas eu le fric. J'ai pas eu l'argent pour faire la publicité. Ah, j'ai eu une autre idée. Si c'est moi-même pour le dire, je devais le dire. Génial. J'ai dit, OK. Je vais faire la musique et j'utilise la musique pour vendre le film. Ça, c'était pas fait avant ça. Et bien, quand la musique a fait, chaque fois, on place donner quelqu'un 15 secondes, paye pour 15 secondes de pub. Il m'a payé de faire mon musique de 3 minutes. Donc, ça c'est. Et maintenant, ça te devient très vite le paradigme, la façon que chaque film était sorti. Mais là, pour un noir, je veux le dire au moins.
Pour un noir, je crois que vous êtes le premier. Vous avez été un trader noir à Wall Street. Et dans les années 80, les années fric, hein, vraiment. Moi, j'y croyais pas, hein, mais j'ai vraiment vérifié sur votre biographie. Non seulement vous étiez un trader, vous étiez très, très doué apparemment. Vous avez écrit un livre qui explique les secrets de la bourse. Alors, pardonnez-moi de ne pas l'avoir lu, mais dites-moi vraiment ce qui s'est passé.
Mais moi, le business et tout ça, ça m'a toujours... J'ai une fascination pour là-dessus. Et beaucoup de mes potes, mais la plupart de mes potes, c'est des hommes des affaires. Et à un moment donné, on était à une table, quelqu'un demandait da-da-da. Et il commence à calculer le pourcentage J'imagine, je peux le faire ça. Je fais les numéros dans ma tête, je peux le faire. Dis, quoi? Comment? Et cet mec-là, c'est une grande quelqu'un de le boss américain, là. Et à un moment donné, on a une discussion et le pari, c'était si je perds, moi, j'allais travailler sur la bourse pour 6 mois. Et puis, j'ai perdu le pari. Et lui, il est assez puissant qu'il peut ouvrir le porte pour moi. Et j'étais allé là. Et j'étais allé là, j'étais fait si bien que les librairies, les éditeurs américains m'ont demandé à faire un livre là-dessus. Et la première fois qu'il m'a demandé, j'ai dit, ben, non, parce que je pense que je veux, que j'ai fait un livre qui discute mon problème comme noir, blablabla. J'ai dit, non, je veux un livre, comment tu fais les numéros dans sa tête et tout ça. Et ben, ça, c'était trouvé très drôle que et pour les qui d'âme et qui m'échoue. Et donc, j'ai écrit ça. C'est ce livre dont ces gens a devenu un best-seller. Oui, oui.
Vous-même, Melvin and Peebles, vous avez fait fortune en bourse à ce moment-là ou c'était une forme de spectacle, un jeu peut-être pour vous?
Ben, d'abord, c'était pas... je travaillais pour un autre magasin, pour un autre... chose, mais je te fais pas mal, mais ça va. Ça c'était pas vraiment mon intérêt, sauf que de connaître l'intérieur de tout ça. Donc, mais ça va, j'ai bien marché. Mais je veux pas rester tout le temps là, mais j'ai fait un pari avec quelqu'un, j'étais payé le pari par ma présence.
C'est dangereux les paris alors?
Si tu perds.
Bob Sonics Radio.
We shall be riding dragons in those days. Black unicorns challenging the eagle. We shall shoot words with hooves that kick clouds. Fire eaters from the sun. We shall lay the high white dome to siege, cover screens with holy wings. In those days, we shall be terrible.
De drogue, de rock, de féminisme ou encore d'écologie. 11 ans plus tard, Jean-François Bizeau investit les profits du journal et ses propres deniers dans Radio Nova et Nova Mag. Passionné par les mouvements alternatifs, il est à l'affût de toutes les nouveautés. Il s'intéresse aussi bien au hip-hop qu'au rail ou à la techno et défend les jeunes talents. C'est d'ailleurs lui qui fait connaître Jamel Debbouze. Amoureux de jazz, il reprend la radio TSF et ensuite de près la programmation. C'est une encyclopédie de musique, d'art et d'histoire des sons.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter, j'irai te visiter. cité.
What were the chances of we falling in love before the night was through? Pizza in the night, two lonely tortellinis, we were pasta in the night. And every time it poured tomatoes over me, little could I see. Secondo Piatte was just a kilometer away. The warming grenades in glams away, and ever since that night, we've been together, love and set up aside. In a love forever, it turned out right, for a pasta in the night.
Radio, furnace fan, stove, toaster, blankets, carpets, and clothes, oil or gas well somewhere, trucks, trains, buses, cars.
I don't want to live in some domed city. Why should I think of traveling to the moon? These are little games of little alienated people. When the great bulk of mankind is suffering, and this is the great tragedy. So I would simply say, leave me alone with that stuff. I can play their games without me.
Oil, coal, gas, and water. Light, sound, heat and electricity. Sunlight, wind or waterfalls. Iron and steel. Food, clothing and shelter. Productivity and consumption.
It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain?
Changes are happening all the time. A few people take up a new lifestyle or new hobbies, or react differently and gradually if it's sound or if it fits into the situation. You find all over the place a very great increase, let's say, in the interest in gardening. This is the great tragedy. Why should I think of traveling to the moon? These are little games of little alienated people. And if we do not withdraw what I call the TLC factor, TLC meaning tender loving care, then nature responds immensely generously.
Production and the standard of living from the tides or the wind. Industry, environmentalists, consumers, and government.
Well, if we do withdraw this factor, then she has to be bullied.